Radio Bocage à Moulins 96.5.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Bocage 96.5 FM, la radio libre et laïque de la Ligue de l'Enseignement, et cela depuis 1983. En cette journée du jeudi 19 février 2026, Bocage Info, votre émission d'information. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire avec des archéologues passionnés, membres de la jeune association Histoire d'Ivoire Clair, Eric Yeni et Isaac Ismaël Kissane. Bonjour tous les deux.
Bonjour.
Salut Farid.
Alors vous êtes les bienvenus à Radio Bocage, je suis très content de vous revoir, parce que d'habitude je vous vois avec un casque sur la tête et en chantier généralement. Donc avant de parler de l'actualité, pouvez-vous nous présenter l'association Histoire d'Ivoire Clair, la jeune association, et pourquoi elle est née et quelles sont ses missions et son organisation ?
Oui, donc nous on est une toute jeune association basée sur le bassin moulinois, née il y a quelques mois en fait. Non seulement de l'initiative d'archéologues, mais aussi d'historiens de manière générale, de professionnels en fait du milieu du patrimoine. Donc l'objectif de la création de cette association est plutôt simple mais assez ambitieux. C'est proposer au grand public une vision de l'histoire qui s'appuie sur la rigueur scientifique et sur les découvertes récentes dans l'actualité de la recherche, plutôt que sur les idées reçues et les clichés qu'on a un peu tendance d'avoir sur l'histoire, ouais, exactement, et qui ont parfois un peu la vie dure. Donc voilà, on essaye en fait de dépoussiérer la discipline pour montrer que la réalité du passé est souvent bien plus complexe et même plus fascinante que les mythes qu'on croit
ouais,
connaître.
Bien sûr, ça casse les images d'Épinal qu'on a, ou des fois qui sont réutilisées un peu volontairement d'ailleurs.
Complètement.
Eric, vous avez déjà commencé à faire des manifestations, parce que là l'association est jeune, mais elle a déjà très active. Il y a déjà eu un événement Place d'Allier, je crois, qui a bien marché.
Oui. On est déjà intervenu Place d'Allier pour faire de la présentation historique à notre sauce, c'est-à-dire vivante, ouais, ludique et quand même scientifiquement rigoureuse. On veut absolument mener les deux en même temps.
Ouais.
Et donc, on a fait une première intervention Place d'Allier. Faut pas me demander la date parce que je suis fâché avec les dates.
Trop de dates.
Trop de dates. Donc on avait d'un côté des panneaux informatifs sur, en gros, l'histoire du territoire français, la façon dont il a évolué, la façon dont il s'est divisé, subdivisé, développé à certaines périodes, amputé à d'autres, les différents peuplements et tout ça. Et puis d'autres panneaux, par exemple, sur les rôles des femmes dans l'histoire.
Ouais.
Et alors ça, c'est le volet, disons, historique rigoureux. Puis après, on avait un volet un petit peu plus ludique, avec des scénettes, avec les chevaliers d'Alène qui ont fait des représentations de combats avec des armes médiévales, mais aussi avec un combat avec des épées de Star Wars.
Parce que... C'est le futur, ça.
ouais, c'est ça, exactement. Et puis, en fait, ça a pas mal marché. Le public apparemment a bien accroché. On avait pas mal de monde.
Oui.
Ça a bien réagi. Donc c'était plutôt encourageant. Et donc dans notre boîte à outils, on a ces présentations comme ça sur, sur la voie publique où on descend avec nos panneaux, nos costumes, nos amis du spectacle comme les Chevaliers d'Alène et d'autres, des échassiers, des gens comme ça. Ça c'est une des choses. Et puis après, évidemment, il y a l'organisation des conférences.
Ouais.
Mais où on garde quand même toujours le même esprit. Alors là, il y a une part un peu plus importante, disons, d'histoire.
C'est plus scientifique.
Mais quand même, on entrelarde de nos interventions, nos interventions scientifiques rigoureuses, de petites scénettes, de petits spectacles, de petites mises en scène où on fait participer le public. C'est ce qu'on a fait lors de notre première conférence. Et là aussi, on voit qu'en fait, ça marche très bien. Les gens répondent très bien.
Ouais. Les gens réclament ce genre de garantie historique, de véracité en marque. Parce que c'est vrai qu'on écoute tout et n'importe quoi en ce moment. Alors, il y a des gens qui récupèrent ça d'une façon bien politisée. Mais c'est important pour vous en tant qu'archéologue. Vous êtes des professionnels de l'histoire. Et par votre métier, d'ailleurs, l'histoire peut changer par rapport à vos découvertes.
Oui, bien sûr. Alors, l'histoire, la discipline de l'histoire et de l'archéologie, de toute façon, c'est des disciplines dynamiques qui ont leur propre histoire.
Bien sûr.
Et on parle aussi de phénomènes qui eux-mêmes ne sont pas des espèces d'épisodes figés dans le temps, mais l'histoire d'un territoire, d'un peuplement, c'est déjà quelque chose de dynamique.
Ouais.
Donc ça introduit des tas de d'entrecroisements comme ça dont il faut rendre compte.
Ouais.
Et nous, ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est reprendre l'esprit des manuels scolaires.
Nos ancêtres, les Gaulois. Ouais.
Voilà, c'est ça, qui sont complètement ponctués de grandes dates et de grands personnages, comme si l'évolution d'un territoire, d'un peuplement, des mentalités dépendait uniquement
d'un récit national,
de quelques personnes, de quelques événements clés. Quand on étudie l'histoire et quand on étudie l'archéologie, on se rend tout de suite compte que tout est beaucoup plus complexe.
Bien sûr.
Et en étant beaucoup plus complexe, de toute façon, c'est beaucoup plus passionnant
que les
manuels scolaires. On ne va pas dire qu'ils étaient mauvais ou qu'ils ne servaient à rien, mais de toute façon, la présentation historique est toujours fonction d'une mentalité et d'une époque. Et le rôle du scientifique, honnête, c'est de sortir des clichés et des attendus qui sont aussi politiques, tout ça, pour apporter des faits et pouvoir extraire tout ce qu'on peut en dire, tout en mentionnant ce que disent les scientifiques, jusqu'à preuve du contraire.
Oui, bien sûr.
On en déduit ça.
Ouais.
C'est pour ça que c'est aussi des disciplines en constante évolution, sans parler des progrès technologiques qui permettent de détecter des choses qu'on pouvait...
Oui, bien sûr. Oui, que la technologie est en train de tout changer.
Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a une actualité de l'histoire, il y a une actualité de l'archéologie, et qu'elle est tout à fait passionnante, et qu'il est bon de la montrer.
Ouais. Ça vous fait bondir, vous, en tant qu'archéologue, quand vous voyez tout le récit sur plein de sujets, hein, on ne va pas repolémiquer sur certains sujets, mais quand vous voyez l'histoire revisitée, et puis qu'on prend que des petits bouts d'une histoire pour en faire un roman, voilà, pour dire, on est de telle origine, alors ça vous fait bondir, vous, en tant que spécialiste, en tant qu'archéologue et historien ?
C'est surtout que, effectivement, comme vient de le montrer et de l'évoquer Eric, les dynamiques historiques, elles sont beaucoup plus complètes et beaucoup plus complexes que ces réalités-là. Et finalement, sur tous les sujets de l'instrumentalisation de l'histoire, etc., finalement, c'est que des avatars. En gros, toutes ces notions de récupération de petits bouts d'histoire, c'est des avatars, en fait, d'une instrumentalisation pour donner un message, et souvent un message très simpliste. Et c'est aussi ça qui a motivé, justement, la création de cette association et nos activités, c'est de montrer que l'histoire est beaucoup plus complexe que ces récits primaires, entre guillemets, et que c'est en plus justement ça qui est très intéressant, c'est que finalement apprendre des dates et apprendre des grands personnages, etc., ça paraît un peu essentiel et finalement pas très intéressant, mais comprendre que finalement il y a plusieurs dynamiques qui rentrent en jeu, alors là c'est là on arrive vraiment à extraire la substance de l'histoire, et c'est ce qui est intéressant dedans, quoi, je trouve.
Et puis après, il faut quand même prendre un peu de recul par rapport à ça. La récupération historique, elle a toujours eu lieu.
Depuis toujours, depuis la nuit des temps. Oui.
Et cette récupération elle-même est un fait historique. C'est-à-dire que Napoléon III, qui tout d'un coup veut glorifier les Gaulois,
c'est
vrai. Ça rentre dans l'illustration de sa politique. Donc on est obligé d'en tenir compte, mais comme d'un fait historique parmi d'autres. Voilà.
Ouais.
Napoléon III a instrumentalisé l'histoire en ressortant une époque gauloise qui avant était quand même relativement ignorée, voire même un peu méprisée, tout simplement parce que les Gaulois étaient considérés comme des perdants, puisque il y a eu l'invasion romaine. Et Napoléon III les a... Alors, en plus, il les a ressortis un peu par hasard, c'est pas ce qu'il voulait. Il cherchait d'autres choses. Il a organisé des fouilles, il est tombé sur des vestiges gaulois. Et il s'est dit, on va utiliser ça. Et il a ressorti cette période. Mais en gros, ce n'est jamais que l'illustration de sa volonté politique. Et la mécanique politique du Second Empire, c'est en elle-même un fait historique qu'il faut analyser comme un fait historique. Et il y a des chercheurs qui font ça très bien. Donc, de tout temps, ça se passe, ça continue de se passer. Il suffit juste de le savoir, de ne pas se laisser de ne pas se laisser emballer et de ne pas se laisser aveugler par ça, simplement se dire, bon, bah, la récupération de telle époque, elle n'est jamais que le symptôme de la politique de cette époque. Les chercheurs doivent le considérer froidement et eux continuer leur travail sereinement, à la limite en ne prenant pas parti. Simplement, si on leur demande si c'est vrai que Vercingétorix était, par exemple, un résistant invétéré de tout temps, il faut simplement, pour ce cas-là, que l'historien, l'archéologue rappelle que c'est déjà plus compliqué que ça. Et après, c'est tout. Donc on peut rebondir sur le langage, disons le langage politico-historique tel qu'il est sorti, pour dire, bah tiens, puisque vous parlez de ça, eh ben, c'est vachement intéressant, et on va vous raconter ce que nous, les données racontent en toute objectivité. Quoi.
Alors, histoire d'y voir clair, voilà, ce qu'on comprend bien, c'est, elle a sa mission, c'est énormément d'éducation populaire, tout compte fait. C'est c'est du pop que vous faites. C'est,
exactement.
C'est vulgariser la grande histoire avec des faits précis, avec même des trouvailles qui peuvent être récentes, mais en version populaire, pour que tout le monde puisse comprendre, voilà, qu'il y ait différents niveaux d'accès lors de vos conférences. Ouais. Voilà. Donc voilà, vous avez fait un spectacle déjà, vous avez fait une première conférence qui était pleine.
Hein, oui, qui a bien marché,
vous pouvez pas recevoir plus de monde. Et là, bah, du coup, vous avez pris les devants pour la prochaine, du coup. Parce que la prochaine aura lieu le vendredi 27 février à 18h à deux pas de nos studios à l'INSPE, au campus universitaire. Donc là, l'amphithéâtre est plus grand. Donc déjà, il y a un peu plus de place.
Normalement, on n'aura pas de soucis.
Il est plutôt sympa, cet amphithéâtre, en plus, au 28 rue DG. Et donc là, du coup, c'est vous faites venir un spécialiste, un professeur en histoire contemporaine. J'ai regardé son CV, auteur de BD et de livres. Oh, sacré garçon, l'invité que vous faites venir. Hein. Donc, est-ce qu'on peut parler de cet événement-là que vous allez vous organiser le 27 février à 18h?
Oui, effectivement, on fait venir du coup la semaine prochaine Sylvain Vénère. Mmh. Donc, effectivement, comme tu as dit, Farid.
Pas Vénère, hein. La blague facile, hein, c'était trop facile.
Et effectivement, comme tu as dit, Farid, un historien de renom, spécialiste du 19e, de l'histoire des représentations, prof des universités. Et du coup, voilà, l'objectif, un peu comme ce qu'on a déjà fait avec Jean-Paul Demoule le 23 janvier dernier, c'est d'essayer de revenir. Donc, justement, on a accueilli Jean-Paul Demoule. Le mois dernier, qui était en tournée en fait pour son bouquin qui est sorti aux éditions La Fabrique, on l'a chopé au vol sur la France éternelle, et en fait du coup c'était un mélange ponctué entre la présentation de Jean-Paul Demoule et des petites activités que nous on proposait, une frise chronologique à resituer, des petits quiz avec des questions un peu simples avec des réponses un peu rigolotes. Génial. Voilà, toujours dans cet objectif un peu de vulgariser, de faire de l'éduc pop, effectivement, comme tu disais, et on va essayer de remettre ça justement avec Sylvain Vénère du coup la semaine prochaine. Donc on a différentes petites activités qu'on est en train de préparer. Alors pour maintenir la surprise, on va pas tout on va pas tout donner maintenant, mais effectivement là il y aura beaucoup plus pour la conférence de la semaine prochaine, une dimension un peu plus débat, là où pour la présentation de Moule, comme il était en tournée pour présenter son bouquin, il y avait plus ce côté conférence ponctuée. Là on va vraiment essayer de faire conférence débat.
D'accord.
Donc avec un système un peu de, si possible, de questions réponses, voir un peu ce que ça peut donner. Et puis voilà, essentiellement, venez nombreux pour le 27.
Il y a de la place, donc profitez-en. Voilà. Pas d'inscription, par contre. Sans réservation, ce que je veux
dire. Sans réservation.
Prix libre, alors c'est au chapeau pour remercier un peu l'association. Ouais, donc c'est comme pour un concert.
C'est au Monsieur Patate.
Monsieur Patate.
On a un gros Monsieur Patate qui lire en plastique.
C'est Monsieur Patate.
Il faut mettre les billets, les pièces dedans.
Dedans.
En sortant, on demande aux gens de donner à manger à Monsieur Patate.
Il faut nourrir Monsieur Patate, c'est important.
Ils lui donnent ce qu'ils veulent.
Voilà, ça permet de faire venir d'autres personnes.
Une des choses qui nous a fait plaisir, c'est qu'en fait, les gens ont bien joué le jeu pendant la conférence de Demoule.
Ouais.
Et Monsieur Patate nous a permis sans problème de payer son voyage en train, sachant
Donc,
c'est pareil, les gens ont bien réagi.
Oui, il y a une demande. Il y a vraiment une demande.
En plus, on est dans un bassin où les gens aiment beaucoup l'histoire. Donc, c'est vrai qu'on sent, on voit les conférences classiques de la Société d'émulation sont toujours pleines. Enfin, je pense qu'il y a une demande. Et puis, même en plus, vous pouvez amener un nouveau public qui, justement, des personnes qui veulent apprendre des choses et qui n'osent pas d'aller dans des conférences très spécifiques, comme je viens de dire, style Société d'émulation, qui est déjà assez pointu. Donc, voilà. En tout cas, donc là, le thème, ça sera là. Quand l'histoire se donne en spectacle, comment raconter notre passé commun. Donc ça, c'est avec Sylvain Vénère, le vendredi 27 février, juste à côté de la radio, à l'INSPE, dans l'amphithéâtre de l'IUT, maintenant le campus universitaire de Moulins, 28 rue DG. Donc voilà, ça c'est à 18h, donc sans réservation, prix libre. Donc on mettra les liens sur nos réseaux sociaux, vous avez une page Facebook, une page Instagram, pour on peut communiquer facilement avec vous, ouais, avec l'association, si on, si on
a des questions. Aussi.
Donc voilà, et en plus, voilà. Donc, quelles sont les prochaines après tout ça? Je suppose que vous avez plein d'idées dans la tête.
Ça va un peu dépendre de ce qu'on nous demande, parce que une première chose qu'on a instaurée à la première conférence, c'est qu'on demandait aux gens éventuellement de nous donner des suggestions, des sujets qu'ils avaient envie qu'on traite. Alors, on verra. On verra les demandes qu'on aura.
Mais
c'est une des façons qu'on a de faire participer le public, c'est de lui demander quels sont les sujets qui l'occupent, qui le préoccupent, et dont ils ont envie qu'on parle. Alors après, les gens peuvent demander des sujets dont on n'est pas nous-mêmes spécialistes, mais on s'arrangera pour faire venir le spécialiste qui convient à la pointe de la recherche. Pour parler des sujets qui seront demandés, sinon nous on a plein d'idées.
Je suppose, oui. Comme vous êtes tous spécialisés, en plus vous avez tous des domaines spécialisés, voilà, et des choses que vous aimez plus ou moins, donc voilà. Alors comment va l'archéologie, pendant que je vous tiens, allez, ce moment,
l'archéologie
bourbonnaise.
L'archéologie, de toute façon, c'est une discipline qui dépend des décisions politiques, typiquement.
Et surtout l'archéologie préventive, en plus.
Surtout l'archéologie préventive, effectivement. Il y a eu des périodes plutôt favorables, et il y a eu des périodes plutôt rigoureuses. En ce moment, on est dans une période rigoureuse où plusieurs acteurs politiques ont très envie de limiter l'impact de l'archéologie préventive au nom de l'éternel slogan « l'archéologie, ça coûte cher, ça nous retarde », et certains osent même dire que ça ne sert pas à grand-chose. Donc en ce moment, il y a des tentatives de faire passer des textes de loi. Il y en a une qui a été retoquée au dernier moment par un amendement, mais visant à réduire l'impact de l'archéologie préventive. Ouais. Alors voilà, on fait le gros dos. Alors, moi qui ai 40 ans de carrière, c'est pas la première fois que je connais ce genre de période. Ça se traduit en général par des manifestations d'archéologues et heureusement par un relais dans les personnels parlementaires, parce que heureusement on a aussi des gens qui nous soutiennent. Et de toute façon, c'est toujours un jeu d'équilibre. Il y a toujours des gens, pro-aménageurs. Alors quand je dis pro-aménageurs, ça ne veut pas dire que les aménageurs sont les ennemis de l'archéologue.
Non.
Mais les aménageurs, leur logique commerciale, c'est d'aller le plus vite possible.
Et le moins cher possible, donc forcément.
Tout le monde.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et l'archéologie, elle prélève un petit peu, elle s'insère dans le calendrier, il y a des gens que ça agace. Même si elle ne prélève pas grand-chose, quand les calendriers sont bien faits, ça a finalement très peu d'impact. Mais il y a des gens que ça agace, donc qui essayent de restreindre la portée de l'archéologie. Donc voilà, parfois ces gens ont le vent en poupe, parfois moins. Donc depuis le développement de l'archéologie préventive, au milieu des années 80, le premier gros chantier, ça a été le Louvre, la cour Napoléon du Louvre et la cour Carrée. Ça s'est développé à ce moment-là. Il y a eu la création de l'INRAP en 2002, je crois que je ne dis pas de bêtises.
Ouais, 2001, je crois, 2001 ou 2002.
Ouais. Ah oui, 2001.
Ouais, 2001 et ouverture à la concurrence en 2002.
Voilà, c'est ça. Alors, donc c'est Catherine Trottmann, ministre de Lionel Jospin, qui a créé l'INRAP en 2001. Juste après, la majorité parlementaire a changé. Donc la majorité a changé de bord et, comme par hasard, juste après, il y a eu le vote d'une loi qui a instauré la concurrence dans l'archéologie préventive, alors qu'avant c'était entièrement un monopole d'État. Donc voilà, il y a eu des grosses manifs. Il y a toujours comme ça un va-et-vient. En ce moment, bon, c'est une période où on a envie de, le personnel politique a envie de favoriser plutôt l'aménagement du territoire, la reprise économique, et donc a tendance à vouloir limiter limiter les pouvoirs des archéologues. Ouais. On croise les doigts pour que ça aille pas trop loin.
Pourtant, au niveau local, on peut citer l'archéologie préventive nous a trop fait des belles découvertes ici, dans le Bourbonnais, dans l'Allier. À côté, ici, à côté, je me rappelle quand vous étiez à Leclerc, quand on voyait la voie romaine qui était perpendiculaire à l'actuelle RN7, c'était impressionnant de voir que tout compte fait, l'être humain construit au même endroit. Quoi.
Ouais.
De toute manière, je ne crois pas qu'on ait jamais pu regretter d'avoir donné des moyens aux archéologues. Les données sont considérables, elles sont super intéressantes. Et puis surtout, justement, elles font vivre la discipline archéologique et historique en apportant des nouveaux points de vue, en apportant une nouvelle compréhension et en réglant certaines questions, en remettant en question des choses que les archéologues et les historiens eux-mêmes avaient pu affirmer, mais justement avec les précautions d'usage. Et c'est ça qui est intéressant.
Chantel, c'était fini. Éric, la dernière fois que je t'ai vu, t'étais à Chantel.
Non, c'est pas fini.
C'est pas fini, Chantel.
Ça reprend.
Est-ce qu'il y a eu des belles découvertes là-bas?
Alors oui, il y a eu.
Situer pour les gens, voilà, c'est sous le château, tout au fond, vers la Bouble,
dans la vallée.
Il y a eu des découvertes passionnantes. Alors après, parfois c'est un petit peu abstrait à montrer aux gens comme ça.
Bien sûr.
Alors on a découvert des choses qu'on soupçonnait pas du tout, alors qui sont pour l'instant assez récentes, comme un grand bassin dont on s'est d'abord demandé ce qu'il faisait là, et visiblement il était consacré à du tannage, et les dernières analyses qu'on a pu faire dessus ont montré que c'était un tannage particulier, parce que ça traitait des animaux non herbivores, alors que normalement quand on fait du tannage et qu'on fait du cuir, c'est plutôt de la vache, du mouton, des choses comme ça. Donc là on a peut-être quelque chose qui servait à un usage particulier, avec des cuirs particuliers, comme peut-être du cuir de porc.
D'accord.
Qui est un cuir extrêmement costaud et robuste, qui sert à faire des équipements particuliers. Donc voilà, mais on reprend ce mois-ci. On a encore découvert d'autres structures qu'on soupçonnait pas. Que là, voilà, c'est typiquement une recherche en cours.
D'accord. Isaac Ismaël, toi, t'es sur quoi en ce moment?
Bah moi surtout là actuellement, du coup je suis sur des petits diagnostics ponctuels. D'accord. En fait, parce qu'on a beaucoup de diagnostics archéologiques pour le coup dans l'Allier, qui vient en partie du fait qu'on a beaucoup de projets photovoltaïques et que du coup il y a beaucoup de surface à sonder. Donc au niveau des diagnostics, ce qui est intéressant, c'est que parfois on va intervenir sur des parcelles qui peuvent être déjà avec une sensibilité archéologique, historique, donc on va chercher quelque chose. Parfois on ne sait pas, et du coup ça permet aussi peut-être espérer la découverte, ou même aussi, et c'est un élément qui est intéressant, ne rien trouver, entre guillemets, ne pas trouver de structure archéologique est aussi une information qui est importante en histoire et dans le traitement des données. Du coup, voilà, donc plusieurs opérations ponctuelles de ça et là, partout dans l'Allier, et c'est un territoire qui a encore beaucoup de secrets, je pense, à nous livrer.
Il y a beaucoup de choses à voir. On est vraiment dans un territoire de croisement.
Ouais, complètement.
Dans le Bourbonnais. Eh bien, merci à vous deux. Merci Eric Yeni.
Avec plaisir.
Merci Ismaël et Isaac Ismaël. Je vais y arriver, à chaque fois j'inverse ton prénom. Isaac Ismaël Kissane.
Merci à toi.
Et puis, histoire d'y voir clair, je rappelle, le vendredi 27 février à 18h dans l'amphithéâtre de l'INSPE, au 28 rue DG, juste à côté, au campus universitaire. Et quand l'histoire se donne en spectacle, comment raconter notre passé commun? C'est un débat avec Sylvain Vénère, professeur en histoire contemporaine et auteur de nombreux livres et BD. Donc ça, il reste encore des places, donc dépêchez-vous de venir ce soir-là. Et si vous voulez plus d'informations, on mettra les liens sur la page Facebook et la page Instagram. Merci à tous les deux.
Merci à toi.
Et puis à bientôt pour les nouvelles aventures.
À bientôt Farid.
Allez, restez à l'écoute de Radio Bocage 96.5 FM, votre radio libre et laïque de la Ligue dans l'enseignement, à vos côtés depuis 1983.
Radio Bocage à Moulins 96.5.